Ok. Voilà. On démarre pour, après le petit intervalle du mois d'août, on démarre notre étude, on continue notre étude sur l'Apocalypse. On est au chapitre 6. On va l'étudier ensemble, un chapitre important, puisque des choses se mettent en place, des sceaux vont être ouverts. Mais avant ça, peut-être, on va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Tu nous demandes de la garder précieusement, de l'écouter, de la vivre, d'y obéir, parce que c'est un chemin de vie. Seigneur, nous voulons lever nos têtes, regarder vers toi, parce que tu reviens bientôt. Nous voulons être debout, ne pas avoir honte, tendre vers l'extraordinaire, vers le parfait, vers la compassion. Seigneur, bénis ta parole pour chacun d'entre nous. Éclaire notre intelligence. Saint-Esprit, illumine nos cœurs pour que nous comprenions. Seigneur, tu t'es révélé pour que nous comprenions, pour que tout ne reste pas mystérieux, mais une lettre vivante, comprise. Aide-nous aussi à développer une mentalité de vainqueur, Seigneur. Des hommes et des femmes qui écoutent et qui disposent leur cœur à vivre ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Apocalypse 6, l'ouverture des six premiers sceaux. On a vu que Jean a une vision du ciel où il a vu la gloire du Père. Il a vu l'agneau, Jésus, dans toute sa gloire aussi. Il avait une vision au chapitre 1, une rencontre terrible avec Jésus qu'il a relevé de sa situation presque de mortalité, et il est transporté dans la présence de Dieu, où un livre apparaît, scellé, et il voit l'agneau qui a été immolé, mais qui est là debout. Et je vous avais dit que Jean compose ce récit en ayant en vue la conclusion aussi de la première, l'inauguration de la première alliance avec Moïse, qui est là sur la montagne, qui reçoit aussi un livre. Et la présentation de ce livre scellé n'est pas d'abord pour nous, parce qu'il n'y a pas trop d'explications sur la valeur, le contenu du livre, mais c'est plutôt l'image de la conclusion d'une nouvelle alliance. Et le fait de déceler montre que cette alliance, elle prend cours. Hein, Jésus s'est présenté comme l'agneau qui avait été immolé, qui était debout. Le sang de l'alliance avait été aussi versé lors de l'inauguration de la première alliance. Deuxième alliance définitive, elle rentre en vigueur avec Jésus. Et l'ouverture des sceaux nous donne vraiment l'impression que là, on est toujours dans les deux mêmes registres et que l'œuvre de salut était accompli et cette alliance est inaugurée à partir du chapitre 6. La première alliance avec Moïse avait apporté la libération et le jugement. Libération du peuple en Égypte, mais en même temps, jugement. Jugement du peuple égyptien, des divinités égyptiennes et condamnation aussi des Cananéens. L'ouverture des sceaux du livre de la Nouvelle Alliance, va aussi, on va le voir à travers ces six sceaux, va voir aussi des jugements s'abattre sur le monde. Quelques mots avant de les expliquer, de mieux les comprendre. Les quatre premiers sceaux forment un ensemble. Il y a les quatre cavaliers. Hein, pensez à ce livre écrit par Billy Graham, les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Hein. Les trois autres sceaux vont être différents. Je vous ai dit que Jean, pour décrire ce que Jésus est en train de faire, ce qui se passe dans le ciel, fait référence à ce qui s'était passé sur le mont Sinaï. Pour décrire maintenant l'ouverture des sceaux, ces quatre cavaliers, je vous ai dit que c'était important de regarder aussi à l'Ancien Testament. Et ce qui va conduire Jean pour... Il doit toujours retranscrire ce qu'il voit. Et il va utiliser des prophéties faites dans le livre de Zacharie. dans Zacharie, on voit au chapitre 1, aussi quatre chevaux qui partent pour, comme des sentinelles. Et au chapitre 6, on voit des chars qui vont juger les nations. Donc on voit que les chevaux ont pratiquement la même couleur. L'arrière-plan, hein, pour les juifs qui vont lire, et puis pour nous qui connaissons l'Ancien Testament, relisez le contexte, je n'ai pas le temps de l'expliquer maintenant, mais on voit qu'il fait des rapprochements. Hein. Dans Zacharie, dans les visions des quatre cavaliers, comme c'était le cas dans Zacharie, les quatre cavaliers d'Apocalypse vont aussi apporter des châtiments de la part de Dieu sur le monde, sur qui, le monde qui s'oppose au peuple de Dieu et qui les persécute. D'ailleurs, hein, les mêmes couleurs sont utilisées. Alors on va maintenant avancer. Alors plutôt que de lire tout le chapitre, je vais avancer saut par saut, comme ça vous pourrez bien retenir. Versets 1 et 2. Je vis alors l'agneau ouvrir un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour remporter la victoire. Alors chaque fois, je vais donner un nom, c'est pour de comprendre. Je dirais ici, premier sceau, des grandes victoires militaires. L'ouverture de chacun des sceaux va déclencher l'avenue des quatre cavaliers, un à la fois. Et chaque fois, il y aura un fléau qui va toucher un quart de la population. C'est donc pas en tout lieu, ni en tout temps. On pourrait se poser la question, à qui s'adresse cet impératif « viens » hein ?» Il dit, j'entendis l'un des quatre êtres vivants dire, dans une voix tonnerre, « viens ». Alors, spontanément, beaucoup de commentateurs disent que cette voix s'adresse aux cavaliers, qui disent « viens ». D'ailleurs, ils surgissent à l'appel. Mais plusieurs pensent, non sans raison, et je le crois aussi, que ce « vient » s'adresse non pas au cavalier, mais à l'agneau, à Jésus. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'on a dit que les quatre êtres vivants qui sont là autour du trône, il y a les 24 anciens qui représentent le super Israël, Israël et l'Église, nouveau peuple de Dieu, les quatre êtres vivants représentent la création. Donc Jean voit la création et il nous le fait comprendre à travers quatre êtres vivants qui, pour chacun, excellent dans ce qu'ils sont. Et on voit mal la création appeler de leurs vœux des fléaux qui vont la détruire. De plus, le verbe « venir » dans l'Apocalypse est toujours adressé à Jésus. « Viens Jésus !» On parle... il est appelé à revenir ou à intervenir dans l'histoire des hommes. On sait que l'Apocalypse va se terminer par ce cri de l'épouse et de l'esprit qui disent à Jésus « Viens !» Hein ? Donc, c'est plus facile de comprendre que les quatre êtres vivants, la création, s'associent à l'Église et à l'Esprit et aspirent au retour de Jésus. On sait dans Romains 8 qu'il est question du soupir de la création après Jésus. La création soupire. Alors plutôt qu'être un appel aux cavaliers, je crois vraiment que leur appel retentit à l'ouverture des sceaux et des fléaux, des jugements, et s'adresse à Jésus qui lui rompt, ouvre, met en action ce jugement. Et la création soupire en disant « Jésus, viens, viens !» Mais nous le verrons, l'agneau ne vient pas encore maintenant. D'autres événements doivent précéder sa venue. Ou alors on pourrait dire que Jésus vient, mais d'abord à travers des interventions de jugement contre la création. Les jugements doivent d'abord s'abattre sur le monde avant que le Christ ne vienne. Donc le « vient », je crois vraiment, s'adresse à Jésus. Viens Jésus. Il viendra. On le verra à la fin du chapitre. Hein. On verra que le sixième sceau, c'est le jugement final. La fin du monde. Et la recréation, la restauration. Mais il vient en intervenant, et on le verra très souvent dans l'Apocalypse, pour amener la repentance. Premier sceau, cheval blanc, il reçoit un arc, une couronne, et il part en vainqueur. Tout un temps, et d'autres commentateurs le font aussi, je voyais dans ce cavalier Jésus-Christ, qui part en vainqueur. Hein, après ça, son ascension, il vient, c'est l'Évangile qui va conquérir. D'ailleurs, au chapitre 19, quand on voit Jésus à la fin des temps venir sur un cheval blanc combattre l'Antichrist et le faux prophète, il est sur un cheval blanc. Mais on est au chapitre 6 et le lecteur qui découvre cela ne sait pas encore qu'il y aura le chapitre 19. Et le seul point commun, c'est le cheval blanc. Je crois que le texte oriente vers une autre direction, une autre interprétation. On voit que c'est Jésus qui ouvre les sceaux. Et on comprendrait mal qu'il ouvre les sceaux et qu'en même temps, il vient sur le cheval. Alors c'est vrai qu'il pourrait jouer les deux rôles, mais ce n'est pas la lecture la plus naturelle. Et en plus, Jean ne nous donne aucune indication. En même temps, il y aurait un décalage avec les autres sceaux. Parce qu'il y a d'autres cavaliers. Hein. On va le voir qu'il y a plusieurs séries de sept. Il y a les sept sceaux, il y a les sept trompettes, il y a les sept coupes. Et le premier, la première trompette, premier sceau, première coupe, n'est pas en opposition avec les autres. Les quatre cavaliers correspondent, on l'a dit, à la vision de Zacharie, les quatre chars. Et il n'est pas question du Messie dans cette vision-là. Donc, on peut dire que c'est pas Jésus qui vient sur un cheval blanc. Les quatre cavaliers vont décrire des jugements de Dieu sur les nations ennemies, hein, comme c'était le cas dans Zacharie, et c'est le cas ici dans Apocalypse 6. Premier sceau, premier cavalier, il n'est pas identifié personnellement, on ne nous dit pas qui il est. Il décrit plutôt une série de personnages. Des héros militaires, des chefs de guerre, des fins stratèges assoiffés de conquêtes à qui il a été donné pendant un certain temps de remporter victoire sur victoire. Ce sont des grands conquérants. On peut dire ce premier fléau nous décrit l'histoire un peu de l'humanité avec ces grands conquérants. Déjà dans l'Ancien Testament, il y en avait. Il y a eu Nebuchadnezzar, Alexandre, Cyrus. Le cheval blanc, mais à l'époque, déjà, hein, et déjà auparavant, bon nombre de chefs militaires revenaient de victoire sur un cheval blanc, couronné, l'arc, symbole de la puissance militaire. Et au 1er siècle, il y avait déjà eu de nombreuses victoires romaines. L'arc était l'emblème des grands ennemis des Romains, hein, les Parthes. Et tout au long de l'histoire, hein, après la venue du Christ, il y a eu Attila, Charles Quint, Napoléon, Hitler, qui ont conquis de vastes empires et qui ont été des fléaux pour l'humanité. Donc le premier sceau nous décrit des choses qui se sont déjà passées avant le Christ et qui vont prendre une autre ampleur, de grands conquérants, de grandes victoires militaires. Deuxième cavalier. Versets 3 et 4. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire « Viens ». Un autre cheval rouge feu apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'entretuent et une grande épée lui fût donnée. Des grands conflits meurtriers, des grandes conquêtes. Mais en même temps, deuxième fléau, des grands conflits meurtriers. La paix va être enlevée de la terre. Les hommes vont s'entretuer. De nouveau, une grande épée est donnée, symbole de la guerre. Cheval et rouge feu, ce qui évoque le feu et le sang. Ils représentent des guerres en tout genre, avec leur cortège de morts et de vils incendiés. C'est différent du premier sceau qui était l'image de conquérant, de grande victoire militaire. Je crois qu'ici, il est question non plus de conquête impérialiste, mais des conflits meurtriers divers entre les peuples, entre des clans humains, des guerres civiles, des émeutes, des révolutions, des morts en grand nombre. On sait qu'avant la Pax Romana, 29-25 avant Jésus-Christ, par l'empereur Auguste, il y avait eu déjà beaucoup de généraux romains qui avaient versé beaucoup de sang. Et c'est l'image de conflits entre tribus, entre ethnies, qui ont marqué le cours de l'humanité. Regardez l'expression aussi. Il reçut le pouvoir. Il reçut le pouvoir. D'autres versions mettent « il lui fut donné ». On va voir très souvent cela dans l'Apocalypse. Ils ont reçu, de qui ? De Dieu, un pouvoir. Pendant un certain temps, il lui fut donné d'enlever la paix. On voit le contrôle divin sur les événements. Dieu conduit l'histoire. Il conduit le cours des événements. Il se sert des guerres que se livrent les humains pour réaliser ses propres plans. À travers ce fléau, tant le premier que le deuxième, on voit que c'est des actions humaines, des despotes qui vont conquérir, des guerres régionales, des conflits armés. Il leur fut donné. Dieu donne le pouvoir, mais il accomplit son dessein. Il reste sous le contrôle de Dieu. Des grandes conquêtes, des conflits meurtriers. Troisième cavalier. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens ». Je regardais et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix dire au milieu des quatre vivants « Une mesure de blé pour une pièce d'argent et trois mesures d'orge pour une pièce d'argent. Mais ne touche pas à l'huile et au vin. » Des grandes conquêtes, des conflits meurtriers, mais aussi des grandes crises économiques. Et la voix ici, une pièce pour une mesure de blé, c'est certainement celle de l'agneau. La troisième calamité, le troisième sceau, le troisième fléau, décrit une crise économique engendrée par la famine. Il y a des carences en céréales. Et le prix de celles qui sont disponibles, c'est pas qu'il n'y en a plus, il y en a moins, et le prix des céréales disponibles est en train de grimper. Le litre de blé, le kilo de blé, le kilo d'orge, était la ration nécessaire pour une personne par jour. Mais on voit que le prix indiqué maintenant est 8 à 16 fois le prix ordinaire. Il y a famine, une famine limitée, puisqu'il subsiste quand même des céréales, et qu'on trouve d'autres denrées, l'huile et le vin, en quantité normale. Mais la pénurie est gravissime. Il y a une grande famine. L'huile et le vin devraient être base pour la cuisine et pour la boisson. Boisson habituelle, puisque l'eau était très souvent de très mauvaise qualité, continue. Ce qu'on voit ici, à travers ce troisième fléau, de fortes pénuries. Et on sait, au premier siècle, il y a déjà eu des famines. Troisième sceau, quatrième, versets 7 à 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le quatrième être vivant dire « Viens ». Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qu'il montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre, de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste, par les bêtes sauvages, et par les bêtes sauvages de la terre. Grande conquête, folie meurtrière, de grandes famines, mais aussi des grandes pertes humaines. La couleur du cheval est intéressante. Vert pâle, vert-gris. Certains commentateurs disent que c'est la couleur d'un visage décomposé par la peur. Couleur qui évoque la terreur, la maladie. Ce quatrième fléau, présenté par le cavalier, représente la mort qui est suivie du séjour de la mort. On voit donc que ce fléau, ce cavalier, sème la mort sur un quart de l'humanité, et de différentes manières. L'épée, c'est-à-dire la guerre, mais aussi famine, peste, bête sauvage. Si vous connaissez l'Ancien Testament, c'est comme un refrain chez les prophètes. Quand Dieu intervient parmi son peuple pour le juger, il y a toujours ce florilège d'actions de la part de Dieu. Des guerres, ou des famines, ou des maladies, ou des bêtes sauvages. Dans l'Ancien Testament, menace de Dieu qui s'adresse au peuple désobéissant. Pas mal de textes qui montrent que c'était souvent comme cela que Dieu agissait. Des grandes pertes humaines. De nouveau, ils reçurent le pouvoir. Il lui fut donné, si souligne encore, la souveraineté de Dieu. À ce cheval, à ce cavalier, il lui a été donné un certain pouvoir par Dieu. Dieu reste en contrôle des événements. Dieu reste en contrôle. Jean les voit défiler les uns après les autres. Ça ne veut pas dire qu'elles se suivent. J'avais entendu lors d'une conférence sur l'Apocalypse que l'orateur disait « Ben voilà, nous sommes pour l'instant arrivés au troisième cavalier. » Je ne crois pas que ce soit une bonne lecture. Bien sûr que pour l'exprimer, il doit les voir l'un à la suite de l'autre. Mais très probablement que ces quatre cavaliers ne se suivent pas dans un ordre chronologique. Ils sont certainement concomitants. Ils vont agir ensemble, ils vont coexister ensemble à plusieurs reprises et dans différents lieux. Ça avait déjà été le cas avant Jésus, au premier siècle où c'est écrit, on voyait que sévissaient par-ci, par-là déjà aussi ces événements. D'ailleurs, regardez ce quatrième, la mort et le séjour des morts, on a vraiment l'impression qu'il est la conséquence des trois premiers. Les trois premiers qui, à cause de ces grandes conquêtes, de ces guerres meurtrières et des famines, ont amené la mort. Et puis le chiffre 4 est intéressant dans la Bible, c'est le chiffre de l'universalité. Les quatre points cardinaux. Les quatre cavaliers ont été dans les quatre directions. Ils ont touché un quart de la population. Au premier siècle, on connaissait, et ils avaient déjà connu, ces quatre calamités. Donc, je pense que ce texte est là pour nous dire que ce n'est pas un, puis ça c'est fini, puis c'est deux. Voilà ce qui va se passer depuis l'ascension de Jésus jusqu'à son retour. On le verra, ça sera affirmé autrement dans la suite du texte. Et que ces choses arrivent à certains endroits, à certains moments, et pas toujours, mais que ça va faire partie de la trame humaine. Les guerres, les famines et la mort qu'elles engendrent sont très souvent le fait d'actions humaines. Nous provoquons nous-mêmes nos propres malheurs. Et le jugement de Dieu consiste quoi ? À livrer les hommes aux conséquences de leur agissement. C'est comme si Dieu disait « Mon jugement sur vous, c'est de vous laisser subir ce que vous êtes en train de faire. » Parce qu'on voit dans ces sceaux qu'il y a l'action des conquérants. Il y a la folie meurtrière, il y a le fait qu'il y a des famines, actions humaines, mais qui sont entre les mains de Dieu, qui châtient l'homme à travers sa méconduite. Parfois, c'est vrai aussi, on voit dans l'Écriture que famine, peste, mort prématurée sont les conséquences de notre sortie du Jardin d'Éden, les conséquences du péché. Quatre premiers cavaliers. Cinquième sceau, qui sera différent, versets 9 à 11. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet. Cinquième saut. Des grands conquérants, des grandes guerres meurtrières, des grandes famines, des grandes pertes humaines, mais aussi des grands soupirs, des grands soupirs. La vision est différente, il n'est plus question de cavaliers. Mais on voit des âmes sous l'autel, les âmes de ceux qui ont été mis à mort, des croyants qui ont été mis à mort, et qui sont là, sous l'autel. Intéressant, parce que Jean voit ce qu'on appelle l'état intermédiaire. De quoi est-ce qu'il est question ? Souvent, on se pose la question, mais quand je meurs, avant le retour de Christ, qu'est-ce qui se passe pour moi ? C'est l'état intermédiaire. Jean voit des croyants dans cette situation-là, entre leur mort et la résurrection corporelle. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit des âmes. Alors, le mot « âme » dans l'Écriture est souvent mis pour « personne ». Hein, il voit des personnes. Mais on a plus l'impression ici qu'il désigne des personnes un peu désincarnées, qui n'ont pas de corps. Il voit des âmes, il ne voit pas les corps, qui ont été égorgés. C'est un verbe qui a déjà été utilisé pour Jésus. En grec, ce verbe est surtout utilisé pour parler des sacrifices. L'agneau qui était égorgé, immolé, sacrifié. Hein, chapitre 5, verset 6, on voyait, Jean voit l'agneau qui avait été offert en sacrifice, immolé, égorgé, et qui était vivant. Ce verbe est utilisé pour faire un parallèle entre les martyrs chrétiens et l'agneau. Ils ont été traités comme lui, ils ont été offerts aussi en sacrifice. Ce verbe n'est pas là pour décrire, pour désigner de quelle manière ils sont morts, mais pour créer un parallèle entre leur mort et celle de Jésus. Ils ont été exécutés. Ils sont morts martyrs à cause de la parole de Dieu et de la proclamation du témoignage à Jésus. Ils ont été fidèles à la parole et ils ont repris à leur compte le témoignage de Jésus, l'évangile, ils l'ont annoncé. Et comme d'autres martyrs, tant dans les Actes que dans un premier siècle sous Néron, ils ont offert leur vie. Ils voient ces croyants qui sont dans la présence de Dieu. Ils sont dans cette phase intermédiaire. Ils ne dorment pas. Ils sont dans la présence de Dieu. Et ces âmes sont sous l'autel. Sous l'autel. Alors vous posez la question, mais quel autel ? Dans l'Ancien Testament, on sait que dans le temple, il y avait deux autels. L'autel des sacrifices et l'autel, dans le lieu saint, l'autel des parfums. On comprendrait mal un autel de sacrifice, puisque le Christ a accompli le sacrifice parfait, il n'y a plus de sacrifice. Au chapitre 8, verset 3, à l'ouverture du septième sceau, il y aura une petite parenthèse au chapitre 7, il est question de l'autel des parfums, où des anges viennent offrir du parfum qui représente nos prières. Je ne pense pas, tout ça ce sont des images que Jean voit, qu'il faille y voir forcément un autel de ceci ou de cela. L'image de l'autel suggère en tout cas que la vie de ces croyants était comme un sacrifice offert à Dieu. Ils sont là sous l'autel comme pour nous dire, mais ces croyants qui sont là, ils ont offert leur vie en sacrifice. Hein. C'est une image qui est souvent utilisée dans l'Écriture. Paul dira de Timothée chapitre 4, « Ma vie est prête de connaître le dernier sacrifice, elle va être offerte en libation. Hein » Il parle de sa mort. Ses croyants sont là et ils ont donné leur vie en sacrifice pour l'Évangile. Ce qui veut dire que la salle du trône que Jean contemple depuis le chapitre 4, c'est aussi un temple céleste, la demeure de Dieu. Parce que on y offre des parfums, on voit au chapitre 4 qu'on lui rend un culte. Jean aperçoit donc ici quelque chose de la condition présente des croyants décédés. C'est intéressant quand même. Hein, Paul avait déjà dit, Philippiens 1, « Je ne sais pas quoi choisir, rester avec vous ou aller auprès du Seigneur, ce qui sera de loin le meilleur. » Ce qu'on voit, c'est que les croyants décédés sont dans la présence de Dieu. Ils sont conscients. Ils sont dans l'attente. Et ces martyrs demandent même justice. Jusqu'à quand, Seigneur ? Jusqu'à quand ne vas-tu pas faire justice par rapport à ce qu'ils nous ont fait ? Par rapport aux habitants de la terre, hein, qui sont mis pour le monde hostile aux croyants. Dieu saint et véritable, ils font référence à la sainteté morale de Dieu. Et par rapport à ce qu'ils ont vécu, ils demandent justice. Ils savent que Dieu ne peut pas concevoir ni supporter le mal, et ils demandent justice. Vous dites peut-être, mais ça c'est un peu contraire à ce que Jésus dit sur la croix, ce que Étienne dit lors de son martyre, puisqu'il demande « pardonne-leur ». Je pense qu'il n'y a pas opposition. Mais quand il y a refus de repentance, refus du pardon, alors il n'y a plus de place que pour le jugement. Oui, l'offre du salut est faite, pardonne-leur. Mais s'il ne veut pas demander pardon, s'il ne se repente pas, et on aura l'occasion de voir tout au long de l'Apocalypse que souvent les interventions de Dieu, les fléaux, les jugements, ont pour but d'amener la repentance, et on le verra à plusieurs reprises, mais ils ne se repentirent pas. Dieu est juste, et il ne laisse jamais le mal impuni, même pour nous. Le mal n'est pas resté impuni, il est tombé sur Jésus. Mais pour celui qui reste en dehors du champ du salut, en dehors du champ de l'Évangile, en dehors de la sainteté que Dieu veut octroyer aux repentants, il n'y a plus de place que pour le jugement. L'amour de l'ennemi conduit au souhait de la repentance et au pardon. Mais s'il ne veut pas, il reste, hélas, place pour le jugement. Ces âmes reçoivent une tunique blanche. Un peu bizarre. Nous étonnons pas. C'est toujours sous le... Ils voient des choses qui nous disent quelque chose. Des âmes qui reçoivent une tunique. Que pourrions-nous faire quand on n'a pas de corps ? Mais c'est une image. L'image évoque la justification, la glorification de ces croyants qui avaient été condamnés sur terre, mais que Dieu justifie dans sa présence. Et ils doivent se tenir en repos. Voilà ce qu'est le temps intermédiaire entre notre mort et la résurrection corporelle. Rester en repos, loin des vicissitudes de la vie. Pour peu de temps. Pour peu de temps. On avait vu, chapitre 1, versets 1 et 2, que cette expression était déjà utilisée. Je reviens bientôt. Il s'agit d'une indication pas tellement quantitative, mais qualitative. Ce que l'agneau souligne ici, c'est que le processus aboutira inexorablement, qualitativement, au jugement, à l'accomplissement. Dans peu de temps, tout sera parfaitement accompli. Le jugement dernier sera d'ailleurs le thème du tableau du sixième sceau. Il prie jusqu'à quand ? Et on va voir maintenant l'ouverture du dernier, du sixième, qui va déclencher le jugement des nations. Avant que leur nombre soit au complet. Ce qui veut dire qu'il faut que nous nous attendions à ce que les chrétiens soient persécutés, mis à mort, jusqu'au retour du Christ. Il ne reviendra pas jusqu'à ce que le nombre des martyrs soit au complet, en vue, bien sûr, de l'évangélisation des nations. C'est pas prendre plaisir aux martyrs, mais on voit la maîtrise de Dieu qui tient nos vies, qui limite les souffrances, qui ira un nombre maximal, pas plus loin. Même le nombre est décrété par Dieu. Nous restons dans le plan de Dieu. Rien n'échappe à notre Dieu, même les destinées les plus effrayantes. Comme pour Jésus, les événements douloureux sont pour les martyrs, sont pour nous le chemin de la victoire finale assuré aux croyants. Des grands soupirs, cinquième sceau, sixième et dernier dans ce chapitre. Versets 12 à 17, le grand jugement universel, on va le voir, la fin du monde, la restauration de la nouvelle création. Je regardais quand l'agneau ouvrit le sixième sceau. il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secouées par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous, loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. » En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? Sixième sceau, sixième fléau, le grand jugement universel. La rupture du sixième sceau déclenche le grand jour. Le grand jour de la colère de Dieu, le grand jour de la colère de l'agneau. Si vous connaissez l'Ancien Testament, beaucoup de prophètes avaient annoncé le grand jour de l'Éternel. Le grand jour de l'Éternel. Où Dieu, il y avait déjà eu des sortes de répétitions générales, où Dieu jugeait son peuple d'Israël, l'envoyait en déportation, jugeait les autres nations. Et certains prophètes annonçaient le grand jour de la colère, comme le terme de l'histoire de l'humanité présente. Il s'agit ici du jugement final universel. Parce que ce n'est plus un quart de la population qui est atteinte, mais c'est le monde entier. Et c'est la réponse à la prière des martyrs. Jusqu'à quand ? Et vient l'ouverture du sixième sceau. Et Jean va le décrire en deux tableaux. Le premier, versets 12 à 14, il va décrire ce jugement comme un bouleversement cosmique qui va provoquer sept calamités. Et puis, dans les versets 15 et 16, la réaction humaine face à cet événement, 15 à 17. Premier tableau, les images classiques du jugement vont être utilisées. Et ce sont des images. La preuve, c'est que, je prends un exemple, dans le livre de Joël, il est question de ce grand jour. Et Joël le voit sous forme d'une invasion de sauterelles. Ce n'est plus le cas ici. C'est un langage figuratif, symbolique, qui nous permet de comprendre. Enfin, l'idée, c'est, écoute, le ciel va tomber sur la terre, ça sera fini, ça sera le chaos. Et dans l'Évangile, c'est pour ça que je vous avais demandé de lire Matthieu 24, ce qu'on appelle les discours eschatologiques. Jésus va aussi décrire les événements qui vont précéder son retour. Et c'est Matthieu 24... Marc 13 et Luc 21, Matthieu 24, regardez au verset 29. Aussitôt, après ces jours de détresse, on verra que ce que Jésus avait décrit, c'était les quatre cavaliers, on en parlera après. Après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra. Image classique pour décrire ce jugement. Au 1er siècle, dans cette province d'Asie mineure, il y avait déjà eu de grands tremblements de terre, deux, en 17 et en 60. Mais ici, c'est plus seulement des tremblements de terre locaux, l'ampleur sera considérable, puisqu'il va affecter l'ensemble de la terre. Le soleil va devenir noir, la lune rouge, et ce sont un langage poétique et habituel dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, pour décrire la fin de toute chose. La chute des étoiles sur la terre évoque la désorganisation globale de l'univers et la dangerosité pour les terriens. Hein, c'est l'image des figues vertes qui tombent par grand vent. Le ciel va se déchirer, se séparer comme un livre. C'est la seule fois où ce mot est utilisé dans l'Écriture, le ciel se partage. Et d'habitude, ce verbe est utilisé pour décrire, vous savez, les livres, c'était des rouleaux, des fines feuilles de cuir qui étaient cousues. Et quand elle se détachait, elle se repliait. Et Jean utilise, quand il voit ça, il voit le ciel, l'univers se replier comme un parchemin, ben le ciel se déchire. Même ce qui est le plus inébranlable, immuable, les montagnes, elles vont être déplacées. Ce qui représentait la stabilité va être secoué. En fait, il est en train de décrire le démantèlement de la planète. Ce tableau décrit la fin du monde. Le sixième sceau décrit la fin de l'humanité. Et versets 15 à 17, c'est le second tableau, il va décrire la réaction des humains face à ce cataclysme. Et ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que personne ne sera épargné. Il va énumérer sept catégories de personnes. Les cinq premières, on pourrait dire, décrivent la haute société, les hauts placés. Même eux seront atteints, ne pourront pas se mettre à l'abri du jugement. Et puis, il y a le restant de la population, monsieur, madame, tout le monde. Cette humanité touchée par le jugement de Dieu cherchera à se cacher, tellement la terreur éprouvée sera terrible. L'intervention du juge, même les dominateurs de ce monde vont perdre leur prestance. Et l'intensité de cette terreur va se traduire ici par l'appel terrible lancé aux montagnes, cachez-nous, cachez-nous. Être écrasé par la montagne est préférable à comparaître devant le juge, devant le Père et l'agneau. Jean nous décrit un jugement terrible. L'Écriture nous avait déjà parlé du jour du jugement, mais une autre appellation, c'était le jour de la colère. Et intéressant de voir ici que c'est la colère du Père et de l'agneau. Et on voit dans le Nouveau Testament nous présenter aussi Jésus comme le juge. Le déchaînement de la colère de Dieu contre les humains qui sont restés en dehors du salut. Ceux qui ont refusé l'Évangile. Le jour du Seigneur, le jour de la fin du monde, est appelé le jour de la colère. Paul a dit plusieurs fois en présentant l'Évangile que puisque l'œuvre du Christ nous a fait échapper au jugement du jour de la colère, ça ne concerne pas le peuple de Dieu, mais l'humanité non repentante. Alors la colère de Dieu, ce n'est pas une passion colérique non maîtrisée, mais bien plutôt, on le voit qu'il a mesuré les fléaux, mais c'est une réaction sainte et juste. Face au mal sous toutes ses formes, Dieu ne peut supporter le mal, c'est contraire à sa nature. Et il aura appelé les nations à la repentance jusqu'au jour où le jugement arrive. La note finale est brève, elle est laconique, mais elle est lourde de menaces. Qui peut subsister? Les hommes, les nations qui auront été si orgueilleuses devant Dieu vont s'écrier, mais qui peut subsister devant le jugement de Dieu, la colère de Dieu? On aura beau essayer de se cacher, de fuir, rien ne pourra empêcher l'homme d'être confronté à son juge à la fin de l'histoire présente. La question qui se pose, c'est quand est-ce que tout cela va se produire? Le discours eschatologique sur la fin des temps, vous savez, les disciples sont là devant le temple et font admirer à Jésus la construction. Et Jésus va répondre, vous savez, tout ça va disparaître. Le temple sera détruit et ce sera le cas à l'an 70. Et puis Jésus va parler et les disciples disent, mais dis-nous quand ça va arriver, quand est-ce que tu vas revenir? Le discours de Jésus sur la fin des temps répond à la question, quand est-ce que tu vas revenir? Et Matthieu 24 éclaire ce point. D'ailleurs, notre chapitre 6 de l'Apocalypse est construit sur base d'un texte comme Matthieu 24. Qu'est-ce que dit Matthieu quand Jésus parle de cela? Jésus dit qu'avant son retour, écoutez bien, il y aura des guerres, des conflits, des famines, des tremblements de terre, des pestes. Vous voyez ça aussi dans Luc 21, verset 13. Mais les quatre cavaliers, c'est ça que Jésus décrit. Puis il ajoute que ce sera en même temps une époque de persécution pour les siens. 24, verset 9. Cinquième sceau. L'âme des martyrs sous l'autel. D'après Jésus, ces événements se situent alors que ce n'est pas encore la fin. Matthieu 24, verset 6. Et pendant ce temps, l'évangile est prêché à toutes les nations du monde. Matthieu 24, 14. C'est-à-dire pendant l'activité missionnaire de l'Église, qui a commencé quand ? À la Pentecôte, jusqu'au retour de Jésus. Tous ces événements mentionnés par les fléaux n'ont cessé depuis la naissance de l'Église. Ce n'est pas juste à la fin qu'il y aura... Ils ont commencé, ils ont encore lieu maintenant. Ça existait au temps de Jésus, ça existe maintenant. Ce que Jésus voulait nous faire comprendre, c'est que le monde va continuer à tourner comme auparavant, pendant un certain temps encore, avant que vienne la fin. Le monde va continuer avec toute une série de fléaux, de jugements. Rappelons-nous que l'ouverture des cinq premiers sceaux a suivi l'inauguration de la Nouvelle Alliance. Chapitre 4, chapitre 5 de l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance est célébrée. Et ce qui suit, c'est l'ouverture des sceaux, l'histoire de l'Église. Les bouleversements cosmiques suivent l'ouverture du sixième sceau, qui a aussi son pendant dans le discours de la fin des temps, dans la bouche de Jésus. J'ai lu le verset 29. Le sixième sceau, Jésus dit, écoutez bien, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, et ainsi de suite. Donc on voit que tant dans Matthieu 24, ce qui va précéder le retour de Jésus, et les six sceaux, on voit que c'est le même cheminement. Les événements qui vont précéder le retour de Jésus tout au long de l'histoire, mais certains qui vont vraiment marquer le retour et le jugement. Donc, c'est clair que le sixième sceau, il décrit le jugement final. Hein, comme Jésus le disait dans Matthieu 24. On voit donc, chapitre 5 de l'Apocalypse, un livre est donné, Jésus qui inaugure la Nouvelle Alliance est le seul qui peut l'ouvrir. Quand il l'ouvre, c'est le début de la vie de l'Église, avec tous les fléaux qui vont continuer et qui se terminent par des cataclysmes cosmiques. On pourrait dire un autre parallèle entre Apocalypse 6 et Matthieu 24, c'est que le thème de la venue de Jésus. Matthieu 24, c'est une réponse à la question des apôtres, quand est-ce que tu reviendras ? Ta venue. Et dans sa réponse, Jésus commence par évoquer des phénomènes qui doivent se produire jusqu'au moment où ils viennent. Et dans Apocalypse, ce sont les quatre cavaliers qui décrivent ces interventions-là. Donc le message est le suivant. La création est tendue vers la venue de Jésus. La création est tendue vers le retour de Jésus. Tout comme les disciples le demandaient à Jésus. Quand est-ce que tu reviens ? Mais avant ce retour, toute une série de phénomènes doivent se produire pendant un certain temps. Notez que c'est Jésus qui décèle ces sceaux. Ce qui veut dire qu'il contrôle. Il contrôle l'histoire humaine. Il les déclenche depuis le trône céleste. C'est ça que le texte nous dit. Les calamités figurées par les quatre cavaliers révèlent autant d'irruptions de Jésus dans l'histoire des hommes. C'est ça que le texte nous dit. Il ouvre, il agit dans l'histoire des hommes. C'est dit d'une manière figurative, mais c'est ça que ça veut dire. Jésus gère l'histoire de l'humanité, appelle l'homme à se repentir et intervient par différents jugements. Mais il reste en contrôle. Il y a des guerres qui sont le fait des humains. Mais le Seigneur s'en sert. Parfois même des catastrophes, pour exercer ses jugements contre le monde et appeler au salut. Alors je terminerai en nous disant ceci. Même si nous, les chrétiens, on peut souffrir de tant de vicissitudes, et sur la planète, il y a des frères et sœurs qui souffrent parfois terriblement au péril de leur vie, même si nous pouvons être appelés à souffrir, il est bon pour nous de nous souvenir que tous ces événements restent sous le contrôle du Dieu créateur. Ce chapitre 6 est donc, on va le voir, ça va fonctionner comme ça aussi avec les trompettes et avec les coupes. Non pas une première phase, et puis il y aura les trompettes, et puis encore d'autres jugements. Ce chapitre 6 nous décrit le déroulement de l'histoire depuis l'ascension jusqu'au retour de Jésus. Toute une série d'interventions, à différents moments, à plusieurs reprises, à différents endroits, et parfois dans d'autres, où, dans le temps de la grâce, Dieu ne veut qu'aucun ne soit perdu. Et il est obligé de secouer la planète pour que l'homme se tourne vers lui, jusqu'au jour, sixième sceau, où c'est la fin de cette vie sur terre. Le Christ revient, reprend les siens, on aura l'occasion de le voir, et juge les nations rebelles. Voilà. On a vu, je crois, l'essentiel de ce chapitre. Si vous avez des questions, on peut en parler quand on se voit. Mais donc, d'ici maintenant 15 jours, 3 semaines, on va voir, non pas le septième sceau, il y a comme une parenthèse, où les hommes ont posé cette question. Qui peut subsister à la colère de l'agneau? Et le chapitre 7 va nous parler du peuple de Dieu, qui n'est plus sous la colère, qui est sous le pardon et sous la grâce, sous la faveur de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse les uns les autres. Bonne journée ou bonne soirée si vous l'écoutez le soir chez vous. À bientôt.